conscience qu'ils peuvent perdre leur super pouvoir du jour au lendemain.
Un peu plus loin, Aftar, 24 ans, s'ennuie devant son magasin de chaussures.
C'est dur la vie ici, j'aimerais partir n'importe où.
Radio G, 101.5 FM. Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie,
poétesse et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou.
Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire suivante.
Je voudrais choisir un extrait du chapitre 9, intitulé.
Assise près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Auditeur, bonjour. Les mots qu'on ne me dit pas est le premier roman autobiographique de Véronique Poulain. Avec ce récit plein de bonne humeur et de sincérité, elle nous fait partager son quotidien de fille de parents sourds-muets. Son père Jean-Claude était ouvrier et sa mère Josette mécanographe. Entre frustration et persévérance, elle va tenter de faire communiquer deux mondes qui ne se comprennent pas toujours et essayer de lever le tabou sur un handicap. Au fil des pages, l'humour grinçant et parfois corrosif laisse plus de place à l'expression de tendresse et de gratitude envers ses parents. Ce savoureux mélange entre l'authenticité des sentiments et une parole directe nous va droit au cœur et nous permet d'appréhender le monde des sourds avec nos sens plus qu'avec notre tête. Par des phrases courtes, débarrassées du superflu, l'auteur nous offre une fascinante incursion dans le monde du silence.
Mes parents sont sourds, sourds-muets, moi pas. Je suis bilingue, deux cultures m'habitent. Le jour, le mot, la parole, la musique, le bruit. Le soir, le signe, la communication non-verbale, l'expression corporelle, le regard, un certain silence. Cabotage entre deux mondes, le mot, le geste, deux langues, deux cultures, deux pays. Je tire sur sa jupe pour qu'elle me regarde. Elle se retourne, me sourit et esquisse un mouvement de tête qui signifie « oui ». Tête levée, je frappe ma poitrine avec ma main droite. « Moi ». Je mets les doigts dans ma bouche, je les retire puis les remets. « Manger ». Mon geste est un peu maladroit. Elle rit. Elle déplace sa main de haut en bas sur sa poitrine, comme si elle attrapait son cœur pour le placer dans son ventre. Faim. C'est comme ça qu'on dit au pays des sourds. Oui, maman, j'ai faim. J'ai soif aussi. Je cherche ma mère. C'est le temps de mes premiers pas. J'avance en vacillant jusqu'à la cuisine et je perds l'équilibre. Ma mère se retourne instantanément et me rattrape de justesse. Elle n'a rien entendu pourtant. Elle sent toujours quand il m'arrive quelque chose. Si je ne suis pas entendue, qu'est-ce que je suis regardée? Il ne peut rien m'arriver. Mes parents ont toujours un œil sur moi. Et pas qu'un œil. Ils me touchent beaucoup. Les regards et les gestes remplacent les mots. Un sourire, une caresse sur la joue, un froncement de sourcils pour le mécontentement, des bises et des câlins pour me dire « je t'aime ». C'est pas si mal, mais j'aimerais bien qu'il m'embrasse plus souvent, surtout mon père. Notre appartement est minuscule. Je dors dans la même chambre que mes parents. La nuit, je ne pleure jamais. Ça ne sert à rien. De toute façon, ils ne m'entendent pas. Ma mère se lève deux à trois fois par nuit pour vérifier que je dors bien, que, par exemple, je ne suis pas morte dans mon sommeil. Plus grande, quand je sais marcher, je me lève et les réveille si j'ai envie de quelque chose ou si j'ai besoin d'être rassurée après un cauchemar. Mais cela n'arrive pas souvent. Je suis une enfant qui dort très bien, imperméable à tout bruit. Mon sommeil est serein. Ma mère fait de la couture. Assise à côté d'elle, je l'observe, en silence. De temps en temps, elle me jette un regard et me sourit. Elle a des épingles dans la bouche pendant qu'elle coud. Et quand elle n'en a plus besoin, elle les plante dans une boule de satin rouge, encerclée de petits chinois multicolores, en satin eux aussi. J'aime jouer avec. C'est doux et c'est joli. Ma mère pose son ouvrage, me prend la boule des mains, pointe un des bons hommes, prononce « orange » avec sa bouche et joint le geste à la parole. Je répète après elle, je l'imite, puis c'est au tour du bleu, du rouge, du jaune. Parfois je fais le geste à l'envers, ce qui ne veut absolument plus rien dire. Alors elle rectifie. Avec elle, je viens d'apprendre les couleurs, dans les deux langues. Elle a une drôle de voix, ma mère. Elle parle pas pareil que les gens dans la rue, mais c'est ma mère et je la comprends. Dans la journée, je suis gardée par ma grand-mère. 18h30, mes parents rentrent du travail, il est l'heure pour moi de les rejoindre. Ma petite main attrape la rampe. Je descends précautionneusement l'escalier, marche par marche. Nous habitons l'étage en dessous. Mon père ouvre la porte, main ouverte, paume touchant ma bouche, je lui envoie comme un baiser. Ça veut dire bonjour. Puis je me jette dans ses bras et je l'embrasse. Ainsi, je passe d'un étage à l'autre, d'un état à l'autre en un claquement de doigts. Au troisième, avec mes grands-parents, j'entends et je parle, beaucoup, très bien. Au deuxième, avec mes parents, je suis sourde, je m'exprime avec les mains.
En 1939, son père Jean-Claude est atteint d'une encéphalite à l'âge de 9 mois. Conséquence, il n'entendra plus. La vie de Jean-Claude bascule. Le temps d'un soupir, il est passé du bruit au silence. À 6 ans, il entre en pension. On l'a confié à l'Institut national des jeunes sourds de Metz. Son meilleur ami Asrat choisit, lui, d'étudier à Paris, à l'Institut national des jeunes sourds de la rue Saint-Jacques. Pour les sourds, Paris, c'est l'Eldorado. Il faut absolument que Jean-Claude vienne le rejoindre. Il a une copine à lui présenter. D'ailleurs, un grand bal est organisé à Gambetta pour les sourds muets. Jean-Claude prend le train. En 1937, les parents de Josette, sa mère, se rencontrent. Robert est la coqueluche de ces dames. Peintre, décorateur la semaine, accordéoniste le week-end, le musicien fait rêver les filles des villages alentours. Il trimballe son instrument dans toute la région. La vie est douce et joyeuse. Ce soir, il joue à Saint-Priest pour une noce. Les filles se pressent pour le regarder. En voilà une qui lui semble très jolie, avec ses grands yeux verts et son air si timide dans sa petite robe à fleurs. Il entame une java. Il soutient son regard. Un sourire en coin. Elle s'appelle Alice. Elle est fille de métayer dans la ferme d'à côté. Mariage. Une semaine après, Alice est enceinte. Le jeune couple s'installe chez les parents de Robert. Alice ne travaille pas. Elle sera femme au foyer. Lui continue ses chantiers, les balles un peu moins. La guerre s'éternise, les hommes se font tuer et les femmes n'ont pas le cœur à danser. Octobre 1941, Alice met au monde une fille, Josette. Rieur, éveillé, le bébé est parfois distrait, trop. La fillette ne réagit pas toujours au bruit. Elle est dans son monde à elle. Petit à petit, l'angoisse étreint Alice. Quelque chose ne va pas là. Alice frappe dans ses mains, sur les meubles, 20 fois par jour. Une fois sur deux, Josette bondit. La porte claque, Josette sursaute. Ouf, tout va bien. Un jour, Josette, avec un bâton, accroche les pots en faïence posés sur l'étagère. Vacarme épouvantable. Alice se précipite. Imperturbable, Josette ne s'est rendue compte de rien. Dix mois pour se rendre à l'évidence. La petite ne réagit qu'au bruit accompagné d'un mouvement perceptible ou d'une vibration. Il lui suffit de détecter une ombre ou un déplacement d'air pour se retourner vif comme l'éclair. Belle illusion. Josette est sourde. Sourde et muette à 100%.
Un second enfant naît, Guy. L'expérience ayant déjà été vécue, le verdict tombe cette fois au bout de quelques semaines. Implacable. Sourd, lui aussi, comme un pot. Robert et Alice sont anéantis. Pourquoi ça leur tombe dessus? Pourquoi eux? Deux handicapés. Leurs enfants sont deux handicapés. Il n'y en a pas dans la famille pourtant. Qu'ont-ils fait, bon Dieu, pour mériter ça?
Robert est effondré. Il voulait se marier et avoir plusieurs enfants. Il voulait qu'il fasse de grandes études. Lui n'avait que le certificat. Il voulait qu'il soit musicien, comme lui. Ironie du sort. Josette va avoir 6 ans. Ils l'inscrivent dans un pensionnat, le temps pour eux de s'installer dans la capitale. Mon Dieu, la pension! Des petits sourds qui poussent des cris d'animaux, des mongoliens, des handicapés mentaux. Des bonnes sœurs méchantes qui les mettent au placard pour un oui pour un non, l'enfer sur terre. Josette n'y reste pas longtemps, quelques semaines tout au plus. Robert et Alice trouvent un appartement, s'installent à Paris, inscrivent les deux enfants à l'Institut National des Jeunes Sourds. Une nouvelle vie commence. Dans la capitale, le regard des autres est moins féroce. Alice et Robert pourront se fondre dans la masse et peut-être offrir un meilleur avenir à leurs enfants. Un avenir où on ne les considérera pas comme des attardés mentaux. Robert trouve du travail comme plâtrier. L'accordéon l'a suivi à Paris, mais la page de la musique et de la gloire est tournée. Il le sait. Né pour la musique, oreille absolue, deux enfants sourds, un comble. Une sale blague de la vie. Pour un peu, il en rirait. Alice, elle, a le sens du sacrifice. Ça la sauve. Elle porte sa croix à travers Paris, tous les matins et tous les soirs, des kilomètres à pied ou en bus pour emmener ses petits à l'école. La seule école spécialisée, celle de la rue Saint-Jacques. Et malgré ce qu'elle endure, elle sourit. Josette grandit. Elle devient une belle plante, épanouie, entourée d'amis, tous sourds, rencontrés pendant sa scolarité. Son père la surprotège. Il est temps pour elle de trouver un fiancé. Ça tombe bien, un grand bal est organisé à Gambetta. Elle s'y rend avec son copain Asrat. Il veut lui présenter un ami.
les sourds se marient entre eux. Entre sourds, on est assuré de partager le même niveau de communication, de compréhension et de connaissance. On est du même monde. Les 6 premiers mois de ma vie, je suis gardée par une nourrice. Ma grand-mère paternelle a décrété que c'était plus raisonnable. Des fois que des parents sourds ne sauraient pas s'occuper d'un bébé. Elle en trouve une en banlieue. Comme c'est un peu loin, j'y reste toute la semaine, en pension complète. Je suis calme car bourrée de somnifères. Le week-end, quand je rentre chez mes parents, je suis speed, car en manque. Jusqu'au jour où mon grand-père maternel craque. Il ne veut plus que des étrangers me gardent. Un vendredi soir, il vient me chercher. Il ne me ramènera plus jamais. Au restaurant, comme tous les enfants en bas âge, je ne tiens pas en place. J'adore me lever, faire le tour des tables, parler aux gens. Je n'arrête pas.
Tu manges quoi? Et c'est bon? Moi, je suis avec mes parents à la table là-bas. Ils sont sourds.
Je suis tellement fière, je le dis à tout le monde. Ma mère, une fois de plus, vient me chercher. Elle articule un « excusez-moi » déformé. Je la coupe illico en langue des signes pour montrer que je sais parler les deux langues. Je n'aime pas trop quand elle essaie de faire comme nous. Je crâne, je fais la maligne, je ne peux pas m'en empêcher. Je décide que ma différence sera un atout. Il arrive malgré tout que cette différence me gêne. Dans le bus, parfois, ma mère a des gaz extrêmement sonores. Elle ne se rend pas compte du bruit qu'elle produit. Moi, si. Et les autres aussi. Dans la rue, c'est pénible. Les regards insistants me dérangent. Ma mère le sait. Elle fait son possible pour rester discrète. Elle évite de trop me parler. À la boulangerie, elle demande une baguette. Paquette 1.
Je n'ai pas compris. Vous voulez quoi, madame ?
Regard affolé de la vendeuse. Il est temps pour moi de voler au secours de ma mère. Une baguette, s'il vous plaît.
Ah, bien sûr, pardon.
En sortant, je jette un regard noir à cette stupide commise. Ma mère habituée sourit. Il arrive aussi que ma mère en ait marre que l'on sollicite pour traduire ce qu'elle dit. Dans ces cas-là, elle se fâche. Arrête de demander à ma fille pain. Je veux pain, pas compliqué. Je suis un peu gênée, mais ma mère a raison. Les gens sont trop cons et le regard qu'ils portent sur mes parents m'exaspère. Ce sont les autres qui regardent mes parents comme s'ils étaient débiles. Ce sont les autres qui pensent qu'avoir des parents sourds, c'est dramatique. Pas moi. Pour moi, c'est pas grave, c'est normal. C'est ma vie. Dans le métro, c'est terrible aussi. Mes parents m'emmènent aux eaux de Vincennes. Ils discutent entre eux, tout le monde les regarde. Quand les portes se ferment, les gens se retournent sur le quai pour les observer. D'autres pouffent derrière leurs mains. D'autres encore font semblant de ne rien voir. Je suis atrocement embarrassée et en même temps, je ne supporte pas qu'on les dévisage comme des bêtes curieuses. Je prends sur moi. Je reste stoïque. Je serre bravement la main de mon père, tout en faisant mine de ne rien avoir remarqué. Après quelques stations, la fureur monte, j'expose. « Quoi ? Vous regardez quoi, là ? Ils sont sourds, ça vous dérange ?» Silence. Le wagon entier regarde ses pieds. Mes parents ont compris. Ils me disent de me calmer, que c'est toujours comme ça, que ce n'est pas grave. Je me souviens de mon chagrin. Je me souviens de ma colère. Je me souviens de ma violence. J'ai envie de tuer, je veux tellement les protéger. J'oscille entre fierté, honte et colère à longueur de temps.
Bavarde, terriblement bavarde. Je cause, tout le temps, à voix haute, à mon miroir, à mes poupées, à moi-même, pas à mes parents. Dans la maison, c'est le calme plat. Je m'ennuie tellement. Je suis là, posée sur mon lit, seule, triste, un peu autiste. Je regarde par la fenêtre et j'attends que ça se passe, que le temps passe, et c'est long. Les yeux dans le vague, j'imagine une autre vie. Une vie où je ne me languirai pas, une vie où je rirai beaucoup. Le rêve prend toute la place et la réalité m'ennuie. Chez mes parents, le film est muet. Il n'y a pas de conversation en bruit de fond, pas d'éclat de voix, pas de gros mots qui fusent, pas de rire, pas de dispute non plus. Et moi, j'ai besoin d'entendre des adultes discuter. Mais ils ne disent rien, mes parents. Parfois, je demande à ma mère d'allumer la télé. Je ne la regarde pas, c'est juste pour entendre le bruit des voix. On pourrait parler de bulles de silence s'il n'y avait pas tous ces petits bruits de bouche, respiration, déplacement des casseroles dans le placard et le bruit des voitures en bas. Des bruits désagréables et agressifs, j'aime pas. J'ai envie de parler ou de mourir, ça dépend des jours. Quand vraiment je n'en peux plus, je fugue. Pas loin, au troisième étage, chez mes grands-parents. Je compense, je les saoule de paroles et ils se laissent enivrer avec jubilation, heureux qu'ils sont d'avoir une petite fille normale. Eux aussi compensent, ils vivent avec moi ce qu'ils n'ont jamais pu vivre avec leurs deux enfants. Parfois, je leur parle rien que pour leur faire plaisir, même si je n'ai rien à dire. Mon grand-père décrète que je serai musicienne. Il m'apprend le solfège. Ma grand-mère approuve. C'est beau un musicien quand ça compose, c'est dans son monde. C'est heureux un musicien. Moi, je voudrais être docteur pour soigner les gens malades. Mes grands-parents maternels sont mes idoles, surtout mon pépé. Je lui voue une admiration sans borne, un amour inconditionnel, et c'est réciproque. Je veux être à la hauteur de ses espoirs. Je veux qu'il soit fier de moi. C'est lui qui est venu me chercher chez cette nourrice. Il est mon héros, pour toujours. Du jour de ma naissance au jour de sa mort en 2007, il n'a cessé de me soutenir, de me pousser, de croire en moi sans réserve et en toutes circonstances. C'est à lui que je raconte mes petites misères. Quand je suis plus grande, je lui confie mes déboires affectifs ou professionnels. Chaque fois, il me réconforte. « Je ne m'inquiète pas pour toi. Tu peux tout faire. Tu vas t'en sortir. Tu vas y arriver. » Et moi, je le crois. Ce sont pourtant ces mêmes grands-parents aimants qui, lors de mes premières relations sentimentales, me répètent qu'il faut que je fasse attention, car avec le handicap de mes parents, qui va vouloir me faire un enfant? Qui va vouloir s'engager de façon durable avec moi? Ils me font bien chier avec ça. De toute façon, je ne veux pas d'enfant.
Ce soir, je vais au bal. Le foyer des sourds a été transformé pour l'occasion en dance floor. Derrière la piste, un orchestre et des musiciens embauchés pour jouer devant des gens qui ne les entendent même pas. Et pourtant, ils enchaînent en souriant. Tango, salsa, rock, java. Quelle énergie! Quelle empathie! Quelle philanthropie! Au pied de l'orchestre, un petit panneau indique la musique à danser. Là, c'est tango qui est affiché. Ma mère empoigne mon père et se lance dans un corps à corps endiablé. Puis les couples s'enlacent. Normal, sur le carton est inscrit « slow ». Et si j'inversais les panneaux? Je m'en farcis des soirées avec les sourds, tous les week-ends. Mes parents m'emmènent partout. Et le samedi soir, c'est réunion au foyer des sourds pour se voir, discuter, boire un coup. Bref, passer une bonne soirée. Enfin pour eux. Parce que moi, je trouve ça pénible. Une forêt de jambes à travers lesquelles je parviens tant bien que mal à me faufiler. T'intolère cependant pour les regarder parler. Je ne comprends pas la moitié de ce qu'ils se disent. Ça signe de partout. Des mains qui gesticulent, des bras qui partent dans tous les sens. C'est assez beau d'ailleurs. Des rires bizarres. Des onomatopées, des grognements, des râles, parfois un mot incompréhensible. Je me demande ce que je fais là. De temps à autre, mon père me porte dans ses bras. On m'embrasse, on me touche les cheveux, on me pince la joue. J'aime pas. On s'exprime d'une drôle de façon, ça, j'ai l'habitude. Ceux qui ne me connaissent pas demandent à mon père si je suis sourde. Non, je ne le suis pas. J'entends et je parle. Je veux rentrer chez moi. Septembre, rentrée des classes maternelles. Des copains, des copines, des goûters, des chansons, des récitations. Elle me plaît bien, cette vie-là. Cette vie où on parle, on chante, on crie, on raconte. J'aimerais bien savoir lire et écrire pour comprendre tous ces mots qui dansent sur la devanture des magasins. Bien qu'ils sachent lire et écrire, ce ne sont pas mes parents qui vont m'apprendre à le faire. Pour un sourd, prononcer correctement chaque lettre de l'alphabet, chaque mot de notre langue est laborieux, éprouvant. Non, ils ne peuvent pas m'apprendre. Je demande à ma grand-mère. Elle est si heureuse de pouvoir enfin transmettre que patiemment, elle s'y colle. Et en décembre 1968, extase, béatitude et ravissement, j'écris mon premier mot, le mot « cheval », le nom du père pour un poulain. Ma vie commence à être intéressante. Je vais lire. Je ne vais enfin plus m'ennuyer. Notices, prospectus, journaux, noms sur les boîtes aux lettres, réclames sur les murs de la ville et toute la bibliothèque rose, la verte, la rouge et or, je lis tout. Tout ce qui me tombe sous les yeux, je dévore les mots qu'on ne me dit pas.
Tu fais comment pour parler à tes parents ? J'en peux plus, marre de raconter. Ève, plus conciliante, explique qu'elle leur parle avec les mains. Sauf que ses copines ne la croient pas et la traitent de menteuse. Alors elle invente. Guy, son père, est dessinateur. Il lui a confectionné une mallette de minuscules drapeaux de toutes les couleurs et pour se faire comprendre de lui, elle sort ce dont elle a besoin. Quand elle est en colère, elle sort le rouge. Quand elle a faim, celui où il y a une assiette de jambon frites dessinée dessus, et ainsi de suite. L'histoire fait le tour de l'école et pique la curiosité de la maîtresse. Elle demande à Ève d'apporter sa mallette de petits drapeaux pour faire un exposé à toute la classe sur la façon dont les sourds communiquent avec leurs enfants. Ne sachant pas comment se sortir de ce mensonge, Ève confie qu'il y a tellement de drapeaux que la mallette s'est transformée en une énorme malle intransportable. Mais elle promet de revenir le lundi suivant avec un dessin expliquant tout ça. Elle raconte le soir même son problème à son père et Guy, amusé, dessine tout le week-end une BD qui reprend leur vie au quotidien. Plus c'est gros, mieux ça passe. Pourquoi ils ne parlent pas à mes parents ? Pourquoi ils ne m'entendent pas ? Pourquoi ne puis-je pas hurler « Papa » et « Maman » à travers la maison pour qu'ils viennent me voir ? Pour les appeler, plusieurs solutions s'offrent à moi. La feignante. J'attends qu'ils se retournent et me regardent. Faut pas avoir un truc trop urgent à demander. La dynamique. Ce que j'ai à dire ne peut pas attendre. Je me lève et leur tape sur l'épaule. La nonchalante, mais néanmoins la plus courante. J'allume et j'éteins la lumière. Ils se retournent, je leur parle. Ou alors, je balance un livre dans la pièce. Mais ça me fait mal au cœur, j'aime trop mes livres. Ou bien, je jette un objet sur eux. Quand mes parents me parlent, je dois les regarder. Je ne peux pas attacher mes lacets, je ne peux pas fouiller dans un tiroir, je ne peux pas leur tourner le dos et regarder par la fenêtre, je ne peux pas lire ou écrire en même temps qu'ils me parlent. La seule chose que je dois faire est de ne surtout pas les quitter des yeux. C'est épuisant. Les regarder pour les comprendre. Scruter à la fois leurs gestes, leurs expressions, leurs imperceptibles mouvements de corps. Impossible de faire autrement. Je tourne la tête une demi-seconde et c'est toute la conversation qui m'échappe. Même si je comprends parfaitement la langue des signes, cela me demandera toujours plus de concentration que d'écouter la radio. De la même façon, je dois chaque fois avoir les mains libres pour m'adresser à eux. Pas de discussion possible en me coiffant, en faisant la cuisine, en sortant les poubelles. Entre les deux, je choisis de ne pas trop leur parler. Après 12 années passées dans un minuscule deux pièces, la famille déménage dans un appartement 4 fois plus grand avec salle de bain.
Première nuit dans l'appartement. Allongée sur mon lit, je tente de m'endormir. Je n'y arrive pas. Dans la chambre d'à côté, il y a de drôles de bruits. Le lit parental grince à part à coup et ma mère gémit. À la fois inquiète et curieuse, je me lève. Envie de voir et de savoir, j'entre dans leur chambre. Ma mère, paniquée, me fait de grands gestes et me somme de sortir. Ce que je fais précipitamment, mortifiée. J'ai vu. Pendant 12 ans, alors que nous vivions les uns sur les autres, alors que nous n'avions absolument aucune intimité, je n'ai rien vu, rien entendu. Comment est-ce possible? Faisait-il l'amour la nuit à côté de moi? Ronflait-il? Je ne sais pas. Boucher à l'aimerie. Une nouvelle vie commence pour moi. Je dois apprendre à vivre au milieu de ce raffut. Je déteste le son de leur intimité urinaire, sexuelle, anale. Je préférais mon paradis perdu, sans chiottes et sans salle de bain. Alors, je vais devoir tout supporter. On n'imagine pas à quel point les sourds sont bruyants. Ça commence dès le matin. Mon père qui se lève et qui traîne les pieds sur le lino. Il a eu la bonne idée d'acheter des babouches en cuir qui claquent à chaque pas contre son talon et qui crissent sur le sol plastifié. Voici que ma mère se lève à son tour, direction la cuisine et préparation du petit déjeuner. Là, une étrange cacophonie débute. Le placard des bols se referme, je sursaute. Puis, c'est au tour du placard du café, puis du tiroir des couverts, puis de la porte du frigo, puis du four. Et la porte du four fait du bruit, je peux vous l'assurer. Quel bordel! Ça pète, ça claque, ça s'entrechoque, ça grince. Pour finir, ça me réveille. Et comme je suis une adolescente épouvantable, ingrate et colérique, je déboule telle une furie dans la cuisine et me mets à hurler et à gesticuler, hystérique, en direction de mes parents abasourdis qui me regardent avec un étonnement immense. Et tous les matins, j'ai beau débouler et leur expliquer que moi, je ne suis pas sourde, que moi, j'entends, que j'en ai marre de leur bordel oral, que je voudrais dormir, ils continuent à me regarder avec une stupéfaction mêlée de pitié pour la pauvre entendante que je suis, et les portes continuent de claquer.
Le silence, imposé à ma naissance, apprivoisé par obligation, puis accepté par nécessité. Il a fini par devenir indispensable à mon équilibre comme une vieille habitude, un vieil ami. Il est de ma famille. Il me réconforte, me rassure, m'apaise. Quand à l'extérieur il y a trop de bruit ou des conversations à n'en plus finir, je l'invoque et il vient. C'est si facile pour moi de devenir sourde à tout. En quelques secondes, je retrouve ma bulle. Je n'entends plus rien. Le monde peut s'écrouler, je ne m'en rendrai pas compte. Et si l'on ose me déranger, je peux devenir agressive. Un truc qui me rend dingue, la musique dans les restaurants. Ou pire, les dîners chez les amis, où on doit se farcir, en plus de la conversation des invités, la toute nouvelle playlist de son hôte en continu pendant le repas. Là, j'ai les fils qui se touchent. Avec le temps, j'ai appris à me contrôler. Je demande qu'on éteigne la musique si c'est possible. Et je passe pour une chieuse, mais ça, j'ai l'habitude. Au mieux, je m'en vais. Au pire, je deviens Rain Man. Je n'écoute personne, je ne parle à personne. Je suis la femme la plus antipathique de la Terre et en plus, je m'en fous. Il y a peu, je suis allée chez un hypnotiseur pour arrêter de fumer. Je m'allonge, il me parle, pour me plonger dans un état de somnolence. C'est le principe de l'hypnose. Je me laisse aller et m'entends lui dire « Je ne vous dis pas « ta gueule » parce que je suis polie, mais vous ne voulez pas vous taire 5 minutes, s'il vous plaît. » Silence. 14-18. C'est la guerre entre nous. Je les déteste. Ils comprennent rien. J'ai rien à leur dire, à part pour leur demander de l'argent. Aucune complicité. Je suis fille unique. Je m'ennuie avec eux. Ils ne m'intéressent pas. Le dialogue, si particulier entre nous, est rompu. J'aimerais tellement avoir des parents normaux. Je me dis que dans une vie antérieure, j'ai dû être une sacrée connasse pour être punie à ce point. Et je m'en veux de leur en vouloir. C'est tout de même insensé d'en vouloir à ses parents parce qu'ils sont handicapés. Je sais bien que ce n'est pas de leur faute. Mais voilà, je leur en veux. S'ils n'étaient pas sourds, nous aurions de grandes discussions sur le monde, la politique, l'éthique, Schopenhauer ou Nietzsche, Tolstoï ou Dostoïevski, Mozart ou Bach.
Texte de Véronique Poulain aborde l'apport révolutionnaire qu'a été la langue des signes. C'est une langue vivante qui se renouvelle chaque jour par le biais des associations étrangères ou celui des Jeux olympiques des sourds. Elle se diffuse dans tous les pays. Les similarités sont de plus en plus nombreuses. Espérons vous avoir donné l'envie de poursuivre la lecture de ce roman, paru en août 2014 aux éditions Stock. Véronique Poulain travaille dans le spectacle vivant. Elle fut pendant 15 ans l'assistante personnelle de Guy Bedos. Les musiques qui accompagnent cette lecture sont la cantate numéro 4 de Bach, interprété par Gesualdo Consort, Reine de Musette, Axel Duval, et la sonate numéro 11 en La majeure de Mozart. Nous remercions Vincent pour l'enregistrement et le montage de cette émission, préparée et lue par Bénédicte et Annie.
Auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site